Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue dans votre journal sur Radio Kapi, la radio de la paix, à la présentation Gisèle Cage. Est de la RDC, l'Union africaine resserre le rang à Lomé, réunion de haut niveau pour évaluer les avancées, identifier les blocages et renforcer la réponse diplomatique dans le Grand Lac. Olomami, une plénière sous pression à Kamina, des tirs pour disperser, séance empêchée, blessée et interpellation signalée, tandis que la crise politique s'intensifie autour de la motion de censure. Riposte contre Ebola, la jeunesse s'organise à Beni, mobilisation, défis et résultats sur le terrain. Samuel Dan Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Beni, répond à nos questions. Il est l'invité du journal. Coup des projecteurs sur la région de Grand Lac. À Lomé, l'Union africaine renforce sa riposte diplomatique face à la crise dans l'est de la RDC. Le 7 et 8 juin, partenaires régionaux et internationaux se sont retrouvés pour une évaluation semestrielle consacrée à la situation sécuritaire dans l'est du pays et dans la région. Présidée par Faure Yassimbe, président du Conseil des ministres du Togo et médiateur désigné par l'Union africaine, cette rencontre a permis de mesurer les avancées, de cerner les défis persistants et de renforcer la coordination des efforts de paix. La MONUSCO ainsi que le bureau de l'envoyé spécial pour la région de Grand Lac ont activement pris part à ces travaux. Plus de précisions avec Alain Irong.
À Lomé, la réunion semestrielle de l'Union africaine sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs a mis l'accent sur la cohérence des initiatives régionales et internationales, ainsi que sur la prise en compte des réalités du terrain. Les défis sécuritaires et humanitaires qui continuent d'affecter les communautés locales ont été au cœur des échanges. Autour de la table figuraient des acteurs majeurs, l'Union africaine, la CIRGL, la CAE, la CEEAC, la SADC, la MONUSCO, le Bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, le HCR et le CICR. Le groupe de facilitateurs de l'Union africaine, composé d'anciens chefs d'État africains, a également apporté son soutien aux discussions. La MONUSCO a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner la désescalade, à protéger les civils et à appuyer une solution politique durable en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux.
Nord Kivu, nouvelle avancée dans la lutte contre le recrutement d'enfants par les groupes armés. Au moins 122 enfants, dont 36 filles, ont été retirés des groupes armés actifs dans le territoire de Walikale ces deux dernières semaines. Une opération menée conjointement par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO, le programme PDDRCS et le bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé. Cette mission fait suite aux recommandations de l'atelier de coordination sur la dissociation des enfants tenu le 12 mai dernier à Beni. Reportage signé Bernard Mnyangi.
La plupart de ces enfants ont été séparés des groupes armés Uhuru, Raia Mutomboki et Raia Kujikomboa, opérant dans les groupements de Walua Luanda, Walua Yungwe, Walua Uroba, au sud-est du secteur de Wanyanga. Selon un rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, les chefs de ces groupes avaient récemment signé des actes d'engagement ainsi que des feuilles de route visant à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants. Pour le PDDRCS, la sortie de ces enfants constitue une avancée importante dans la lutte contre les violations graves des droits de l'enfant. À la fin de la semaine dernière, 110 des 122 enfants avaient déjà été réunifiés avec leur famille. Les démarches se poursuivent pour permettre la réunification d'une dizaine d'autres avec l'appui des partenaires de l'UNICEF impliqués dans cette opération. Rappelons qu'avant cette mission, un atelier de plaidoyer s'était tenu le 12 mai à Beni, réunissant les autorités territoriales de Beni, Lubero et Walikale autour du groupe technique et thématique conjoint du gouvernement congolais et des Nations Unies. Lors de ces échanges, la présence d'au moins 300 enfants au sein des groupes armés dans le territoire de Walikale avait été dénoncée.
Tension à Lubutu, au Maniema. Après l'attaque meurtrière du week-end, l'heure de compte a sonné. L'incursion d'éléments armés présentés comme des groupes d'autodéfense a fait des morts, des blessés et d'importants dégâts et provoqué le déplacement de plusieurs habitants. À Kinshasa, la réaction ne s'est pas fait attendre. La députée nationale Yvonne Musongela exige toute la lumière sur ces violences. Dans une motion d'information présentée ce lundi à l'Assemblée nationale, l'élu de Lubutu rappelle un principe clair. Les groupes d'autodéfense censés appuyer les FARDC ne peuvent en aucun cas se retourner contre les forces loyalistes ni contre les populations civiles. Elle plaide pour l'envoi urgent d'une mission d'enquête parlementaire mixte associant gouvernement, FARDC et police nationale congolaise afin d'établir les responsabilités, évaluer la situation sécuritaire et rendre justice aux victimes. On écoute Yvonne Musongela dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Des tirs ont été dirigés contre des paisibles citoyens. Plusieurs maisons ont été incendiées, notamment ma résidence familiale et mes collaborateurs directs. On compte des pertes en vies humaines ainsi que des blessés graves. Les victimes blessées sont actuellement prises en charge dans des structures hospitalières dont les capacités demeurent insuffisantes au regard de la gravité des blessés constatée. Face à ces faits extrêmement graves, l'État congolais a le droit de garantir la sécurité des populations civiles et de restaurer l'autorité de l'État et de lutter contre toute forme d'impunité. Au regard de ce qui précède, je suggère une enquête parlementaire mixte et urgente, un fonds de prise en charge sociale, une prise en charge urgente de blessés et de déplacés et le plus qu'entendu.
À Mbujimayi, au Kasaï oriental, les motocyclistes sont de plus en plus la cible de vols à main armée dans un contexte d'insécurité grandissante. En moins d'une semaine, deux conducteurs ont été atteints par balle avant que leur moto ne soit emportée par des assaillants. Face à cette recrudescence d'actes criminels, le gouverneur de province a exprimé sa vive inquiétude ce lundi lors de la cérémonie de salut au drapeau. Il a appelé à un renforcement immédiat de dispositifs sécuritaires afin de mieux protéger les habitants et leurs biens. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Le dernier incident en date s'est produit ce lundi à proximité de la localité de Lac Lomba sur la nationale numéro 1 axe Lukalaba Mbujimayi. Selon plusieurs sources locales, un motocycliste en provenance de Lukalaba situé à près de 50 km transportait deux clients armés qui se sont finalement révélés être des assaillants à l'entrée du Lac Lomba. Les deux hommes ont ouvert le feu sur le conducteur, l'atteignant au bras avant de s'enfuir avec sa motocyclette. L'infortuné a été rapidement acheminé vers un centre hospitalier de Lukalaba pour des soins d'urgence. Cet acte survient quelques jours seulement après un autre meurtre similaire. Jeudi dernier, vers 5h du matin, un motocycliste a été abattu au lieu dit mobile en pleine ville de Mbujimayi par deux individus non identifiés qui ont également emporté son engin. Ces attaques répétées ont provoqué une vive agitation parmi les conducteurs des motos. En colère, certains ont détruit les planches servant de barrière de contrôle pour le paiement des jetons journaliers, dénonçant l'insécurité persistante et l'absence de protection. La semaine dernière, un agent de police a été présenté à l'autorité provinciale pour avoir extorqué deux motocyclettes et plusieurs autres biens de la population dans le territoire de Katanda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Affaire des experts de l'ONU tués au Kasaï. Malgré les condamnations, De Voix dénonce une justice incomplète et réclame que les commanditaires soient identifiés. La société congolaise pour l'état de droit, la SED, exprime ses réserves après le verdict rendu vendredi par la haute cour militaire qui a prononcé plusieurs condamnations à mort. Pour l'organisation, la justice n'est pas allée jusqu'au bout. Elle estime que seuls les exécutants ont été jugés sans que le véritable responsable ne soit clairement identifié. La SED appelle ainsi à poursuivre les commanditaires, y compris au plus haut niveau, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Plus de détails avec André Katende Ngalamulume.
La Société congolaise pour l'état de droit SAED réagit au verdict de la haute cour militaire dans l'affaire du meurtre des deux experts de l'ONU au Kasaï. Dans une déclaration de ce mardi, l'organisation estime que les condamnés ne sont pas les véritables responsables de l'assassinat des Aïda Catalan et Michael Sharp, tués en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur les violences du conflit Kamuinan-Sapou. Selon son directeur, Maître Dominique Kambala, certaines autorités de l'époque soupçonnés d'avoir commandité ces doubles meurtres, n'ont jamais été inquiétés. Ils plaident pour que ces présumés commanditaires soient traduits en justice.
Ceux qui viennent d'être condamnés, pour nous, nous estimons que ce sont des menus frétins et que les grosses personnalités impliquées dans cette affaire devraient absolument répondre de leurs responsabilités.
La Société congolaise pour l'état de droit critique les recours à la peine capitale dans le verdict de la haute cour militaire. Dominique Kambala souligne que plusieurs dossiers liés aux crimes commis contre des Congolais lors de ces conflits n'ont jamais été instruits. La SAED appelle la justice à réouvrir ces dossiers afin que le millier de victimes obtiennent réparation et que les responsables soient sanctionnés. Kananga, André Katindengala Mulume, Radio Okapi.
Crise à Kamina, une plénière empêchée, des coups de feu et des arrestations sur fond de bras de fer politique à l'Assemblée provinciale. Ce lundi, au siège de l'Assemblée provinciale du Olomami, le service de sécurité ont empêché la tenue de la séance consacrée à l'installation du bureau d'âge sur instruction de certaines autorités locales. La situation a rapidement dégénéré. La police a fait usage des balles réelles. Plusieurs blessés sont signalés, dont une députés et plusieurs personnes ont été interpellées. Conséquence immédiate, la plénière a été délocalisée. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge devra notamment examiner la motion de censure déposée en mai dernier contre les 5 membres du bureau actuel. Plus de précisions avec Paulin Munanga.
Des éléments de la police tirent des balles devant les sièges de l'Assemblée provinciale de Olomami pour disperser les députés qui devraient organiser une plénière afin d'installer les bureaux d'âge, indiquent des sources locales. Face à cette situation, la plénière a été délocalisée. Selon les rapporteurs de cette institution, l'article 8, alinéa 4 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Olomami autorise la délocalisation de l'Assemblée plénière en cas de circonstances exceptionnelles. C'est en vertu de la disposition que la plénière a été délocalisée vers les bureaux administratifs de l'Assemblée provinciale. Le rapporteur de cette institution revient sur les missions consacrées au bureau d'âge. Senghor Kabondo Senghwa.
D'abord de traiter sur la motion de censure portée contre le bureau, voir s'il y a recevabilité ou non. Après cette étape, le bureau va devoir convoquer une plénière au cours de laquelle les 5 membres du bureau reprochés par les motionnaires vont devoir s'expliquer devant la plénière.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction de l'autre camp des députés qui s'opposent à l'organisation de la plénière. Contacté par Radio Okapi, le commissaire provincial de la police du Olomami n'a pas voulu s'exprimer au sujet de ces incidents. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Risque élevé d'Ebola en Ituri. Les déplacés en première ligne dans un contexte de vigilance sanitaire insuffisante et de mouvements des populations préoccupants dans la plupart des sites à Bunia comme à l'intérieur de la province. Les mesures de prévention restent insuffisantes. Des sources médicales signalent également l'arrivée des populations en provenance des zones touchées, notamment à Mongwalu, l'un des principaux foyers de l'épidémie. Une situation préoccupante qui accroît les risques de contamination pour des milliers de personnes déplacées. Face à l'urgence, les responsables des sites et les acteurs de santé tirent la sonnette d'alarme. Les détails avec Isaac Remoyope.
À Bunia, les sites des déplacés de Kigons et de l'ISP accueillent à Essel près de 30 000 personnes. Pourtant, les mesures de prévention contre Ebola y sont quasiment absentes. Les dispositifs de lavage des mains sont rares, voire inexistants. L'accès à l'eau potable demeure également un défi pour de nombreuses familles déplacées. Le même constat est fait dans plusieurs autres sites situés à la périphérie de Bunia, notamment à Mbala, Tsere et dans de nombreux sites du territoire de Djougou. Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités sanitaires et leurs partenaires,
partenaires, les gestes de prévention sont peu observés. La distanciation physique est difficile à respecter dans ces espaces, souvent surpeuplés. Les dispositifs de contrôle des températures font également défaut. Autre préoccupation, les mouvements des populations en provenance des zones affectées par l'épidémie. Selon des sources médicales, de nouveaux arrivants continuent de rejoindre certains sites des déplacés, notamment celui de Djaïba à Fataki, en provenance des zones de santé touchées par Ebola dans Mungwalu. Face à cette situation, les comités des déplacés appellent le gouvernement et ses partenaires à renforcer les mesures de prévention dans les sites afin de protéger près d'un million de personnes déplacées vivant actuellement dans la province. Contactées, les autorités provinciales n'ont pas encore réagi. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kassindi, point stratégique du Nord Kivu, notables et personnels de santé renforcent la sensibilisation et appellent au respect strict des mesures contre Ebola dans cette cité frontalière, véritable porte d'entrée et de sortie vers l'est de la province. Le risque reste élevé face à l'épidémie. Sur le terrain, le leader communautaire s'engage aux côtés des professionnels de santé pour intensifier la sensibilisation et prévenir toute propagation du virus. Ils appellent à une prise de conscience collective et au respect strict des mesures de prévention. Les détails avec Marc Marofimbo.
Le quartier populaire de Kongo-Yassika, dans la cité frontalière de Kassindi, a été choisi pour lancer cette campagne de sensibilisation entamée lundi matin. Notables et professionnels de santé, issus de différentes structures sanitaires locales, parcourent les quartiers pour informer la population sur les mesures de prévention contre Ebola. Un message clair est martelé, Ebola existe, Ebola tue et chacun doit se protéger. Imani Mambura Kasereka, l'un des notables impliqués, explique la motivation de cette initiative.
Ebola existe, Ebola tue. Et le plus grand médicament de cette maladie, c'est d'abord la reconnaissance de son existence. Voilà pourquoi j'appelle toute la communauté de Kassindi au respect de mesures prises par le gouvernement congolais. Lavons les mains, évitons les contacts corporels. Kassindi, c'est une commune qui accueille tout le monde, les gens qui viennent de l'extérieur du pays, les gens qui viennent de l'intérieur du pays. Nous devons lutter contre cette maladie en respectant les règles hygiéniques.
Ces leaders communautaires appellent également le gouvernement à renforcer les dispositifs de prévention dans cette cité frontalière. Pour rappel, la semaine dernière, l'Ouganda avait fermé la frontière d'Mpondwe après l'enregistrement d'une dizaine de cas confirmés d'Ebola, dont la majorité provenait de la République démocratique du Congo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, ce 9 juin, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'installation d'un site destiné à accueillir des ressortissants américains exposés au virus. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène dans un climat déjà marqué par de fortes tensions et des arrestations. Le centre prévu sur une base aérienne située à environ 200 km de Nairobi suscite une vive opposition alors même qu'aucun cas d'Ebola n'a été enregistré au Kenya à ces jours. Les habitants de Nanyuki redoutent une introduction du virus dans leur région ainsi que les conséquences sanitaires et économiques pour cette ville touristique située au pied du mont Kenya. La semaine dernière déjà, des manifestations similaires avaient fait 2 morts. Bien que le projet soit suspendu depuis le 28 mai par la justice kenyane, du matériel et du personnel américain seraient déjà arrivés sur la base selon l'agence Reuters. De leur côté, les autorités kenyanes tentent de rassurer la population et multiplient les prises de parole.
L'invité.
À Beni, la jeunesse monte au front contre Ebola. Le Parlement des jeunes intensifie sa campagne pour pousser la population à respecter les mesures barrières. Quelle stratégie pour toucher efficacement les communautés et surtout quel impact concret sur le terrain? Des réponses avec Samuel Don Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Beni, invité de la rédaction au micro de Marc Marofimo.
Samuel Do Sekanabo, bonjour.
Bonjour, merci.
Depuis la semaine dernière, le Parlement des jeunes mène une campagne de sensibilisation de la communauté au respect des mesures barrières contre la maladie du virus Ebola sur le terrain. Comment ça se passe et est-ce que les jeunes sont-ils vraiment conscients du danger que présente cette maladie?
Oui, nous menons la campagne. Les jeunes sont vraiment conscients du danger et s'ils se sont appropriés la campagne, c'est parce qu'ils ont compris que ça, la jeunesse qui représente la grande partie de la communauté, nous allons perdre tout le monde. monde de Beni, les jeunes s'approprient déjà la campagne et peu partout, même dans des écoles, là qui est encore court, la campagne continue. Nous avons commencé la campagne, c'était d'abord au niveau du quartier Yacobo et Mukulia, où nous avons sensibilisé nos pères jeunes de mettre des dispositifs lave-mains peu partout, même dans leur ménage. Nous avons compris aussi une autre chose que si la jeunesse ne s'approprie pas la campagne, ne s'approprie pas la riposte, risquerait de placer plutôt les contre-ripostes. Au lieu d'accompagner, il faut créer la résistance et cela va nuire à la communauté et les équipes auront des difficultés. C'est comme ça que la jeunesse, non seulement le Parlement de jeunes, l'initiative vient du Parlement de jeunes, mais au moins un peu partout, il y a déjà des éléments de ce message et il y a déjà l'appropriation du message et les choses marchent déjà au niveau de la ville de Beni.
Quelles sont les stratégies mises en place pour la réussite de cette campagne?
Comme stratégie, nous en avons trois. Premièrement, nous sommes en train de mener la campagne dans différents réseaux sociaux où nous sensibilisons sur des plateformes comme Facebook, WhatsApp, sensibiliser nos pères jeunes qui sont actifs dans les réseaux sociaux. Nous faisons aussi des actions de surveillance à base communautaire où dans la communauté et peu partout dans nos 30 quartiers, nos jeunes veillent sur leurs pères dans la communauté. Troisièmement, il y a aussi maintenant des conférences que nous faisons, des actions que nous faisons. Récemment, nous avons réalisé, à part Mukulia, nous avons réalisé d'autres actions peu partout où nous continuons à sensibiliser. Cette semaine, nous avons prévu deux séances où nous allons rencontrer les leaders de jeunes, leur présenter les difficultés qui ont trait à la désinformation par rapport à la riposte. C'est surtout cet aspect que nous essayons de marteler. Nous, à notre niveau, nous avons compris que cette désinformation risquerait de détourner l'attention de la communauté. Au lieu de respecter les mesures barrières, ils pourront penser qu'ils sont en train de respecter, pourtant ils sont en train de ne pas observer les mesures liées à Ebola pour avoir d'autres mesures qui ne sont même pas appropriées et au risque maintenant d'embrasser la maladie en disant que nous sommes en train de nous protéger.
Alors Samuel, sur le terrain, quel est votre degré de collaboration avec les autorités sanitaires et locales pour garantir l'efficacité de cette campagne?
Le degré de collaboration est vraiment parfait parce qu'au moins chaque jour, nous participons dans des rencontres au niveau du BCZ. Nous sommes avec l'équipe de la communication et de la coordination. Au niveau de la mairie, on collabore avec l'autorité urbaine. Au niveau de commune, nous sommes en collaboration avec les bourgmestres. Mais nous allons plus loin. Ces derniers temps, nous sommes en train d'envisager aller vers le chef de quartier pour que nous puissions faire l'ancrage purement communautaire qui doit commencer de la base. En somme, nous pensons que ça peut plus relayer les messages.
Alors pour terminer, peut-être dernière question, qu'attendez-vous de la communauté à travers cette campagne?
Nous attendons la communauté, le respect juste des mesures barrières, relayer aussi. Si le père du ménage a compris le message, au niveau de son ménage, qu'il puisse relayer le message. Dans des églises, les pasteurs, les prêtres, les imams et peu partout, qu'ils puissent aussi relayer le message. Cette maladie est peut-être très compliquée parce que si on ne fait pas attention, si une personne ignore la maladie, elle peut facilement affecter toute la communauté. Donc que tout le monde puisse comprendre que cette maladie est grave et nous avons intérêt à créer une riposte farouche pour que nous puissions réellement bouter hors l'état de nuire cette maladie qui nous vient encore une fois. Après autant de jours que nous l'avons vaincue, nous devons encore vaincre cette maladie par une riposte farouche et que cela soit bouté hors la ville de Beni.
Samuel Sekanabo, merci.
À moi de vous remercier.
Samuel Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Beni, était notre invité. Il évoquait des actions de terrain menées par les jeunes dans la lutte contre Ebola. C'est la fin de votre journal de 18h. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la radio de la paix. Vous pouvez réécouter cette édition en podcast sur www.radiookapi.net. Et pour ne rien manquer, l'actualité continue en temps réel sur nos plateformes numériques et réseaux sociaux. Présentation Gisèle Cage, supervision rédactionnelle Alain Hirung, mise en onde Alain Goy, coordination Élisée Chicota. À très vite sur la même fréquence.